Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Clôture du mois de la femme, le FPI a organisé à Kinshasa une journée de réflexion axée sur les leaderships féminins et l'efficacité au travail. Le DG de cette institution s'est réjoui car aujourd'hui, les femmes représentent près de 30% du personnel avec plusieurs postes et des responsabilités occupées grâce à leurs compétences. En Ituri, la MONUSCO renforce sa présence sur plusieurs axes à travers des opérations militaires, des escortes humanitaires et des actions civilo-militaires. Les détails dans un instant. Notre invité est Moussa Ali Routamou, secrétaire exécutif de l'ESBEL Mouchosia Raïa. Dans une interview avec Jean Kassami, il revient sur les retombées socio-économiques de la mesure interdisant les trafics sur les tronçons Uvira-Runingu, mesure prise par les autorités militaires en vue de contrer les infiltrations de l'FC M23 dans la ville d'Uvira. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Commençons ce journal par le chapitre du mois dédié aux droits des femmes. À l'occasion de la clôture du mois de la femme, le Fonds de promotion de l'industrie a organisé à Kinshasa une journée de réflexion axée sur les leaderships féminins et l'efficacité au travail. Objectif, renforcer la présence et la performance des femmes au sein de l'institution. Nancy Atambo, reportage.
Prenant la parole, le directeur général du FPI, Hervé-Claude Batoukonke, a salué les avancées réalisées dans la promotion de la femme.
Je tiens d'abord à souligner que le développement économique d'un pays ne peut se réaliser sans la participation de toutes ses ressources humaines, dont la femme. C'est dans cette optique que la place de la femme devient essentielle, notamment dans des institutions stratégiques comme le Fonds de promotion de l'industrie, qui joue un rôle clé dans le financement et l'accompagnement des projets industriels.
De son côté, la présidente du conseil d'administration, Vicky Katoumoua Moukalaï, a encouragé les femmes à cultiver l'excellence et le sens des responsabilités.
Mais les femmes doivent cultiver l'esprit d'entrepreneuriat qu'elles ont et doivent cultiver la compétitivité parce que même l'accession à des postes importants ne dépendra pas de l'extérieur ou d'appui externe, mais dépendra d'elles-mêmes les femmes. C'est pour cela que nous les invitons à être performantes, disciplinées, à travailler d'arrache-pied, à prouver qu'elles ont des capacités que les hommes aussi.
La journée s'est clôturée par un échange direct entre la PCA et le personnel féminin dans une ambiance conviviale et motivante.
Début ce vendredi de l'atelier de formation des femmes sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour l'industrialisation inclusive et durable, organisé par l'agence Océan Communication en partenariat avec le ministère de l'entrepreneuriat et développement des petites et moyennes entreprises. L'activité s'est déroulée dans la salle de PNML à Kinshasa. Les détails de cette journée dans ce reportage de Joël Wetchi et Vanessa Kongolo.
Promouvoir l'entrepreneuriat de femmes, les aider à se relever, les accompagner dans les processus de création d'entreprises et surtout de leur permettre d'intégrer les réseaux de mentorat, c'est l'objectif de cette session de formation. Le participant à cette activité se dit édifié par les interventions de panélistes.
Personnellement, j'ai un projet. Bientôt, je voulais mettre à place un cabinet d'ophtalmologie pour les personnes à tête d'albinisme. Quand j'ai suivi ces étapes, ça m'a encore encouragé de revoir mon projet et de bien me lancer.
Organisatrice de cette formation et DG des Océan Communication, Marie-Jeanne Moupelé explique les objectifs spécifiques.
L'objectif qu'on poursuivait dans cette formation, c'est de promouvoir le femme, de relever le femme qui se sent encore marginalisée jusqu'à là.
Cadre de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC, Julie Chilanda a présenté au public les étapes essentielles pour quitter d'une idée à un projet ainsi que les critères pour créer une entreprise rentable.
Les critères plus importants, d'abord ton idée où tu veux transformer un projet. Il faut d'abord te rassurer que ça répond à un besoin qui est sur terrain.
Ouverte vendredi, l'activité va se clôturer ce samedi 28 mars 2026 avec la remise de brevets aux participants.
La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo réaffirme son engagement à accompagner les femmes et les filles dans leur combat pour la justice, l'égalité et l'action en faisant de chaque voix féminine une force de changement. C'est dans cette perspective que s'inscrit le rassemblement de ce jeudi 26 mars à Kinshasa, dédié aux femmes, qui a réuni plusieurs femmes de la Croix-Rouge des différents services, ainsi que quelques hommes, dont le président de la Croix-Rouge RDC. L'activité s'est inspirée du thème de la Journée mondiale des droits de la femme, à savoir pour toutes les femmes et les filles, droits, justice et action, avec un accent sur le leadership féministe. Détail avec Jude Mister Bilandankumar.
Cette rencontre s'est voulue un espace d'échange, de réflexion et d'engagement pour la promotion des droits et du rôle des femmes dans la société congolaise. À travers des interventions, les responsables de la Croix-Rouge ont rappelé l'importance de renforcer les capacités des femmes, de valoriser leurs compétences et de les encourager à occuper davantage des postes de décision. Le président national de la Croix-Rouge, Grégoire Matesso Mbutawai, a lancé un appel vibrant à l'action. Il a exhorté les femmes à s'investir davantage pour accroître leur capacité à gérer des responsabilités et à occuper des fonctions stratégiques en RDC.
Nous avons des femmes au sein de la cause qui ont des grandes responsabilités. Et cette conférence est organisée par ces femmes pour sensibiliser, pour parler de la femme, surtout la femme Croix-Rouge.
Pour sa part, le secrétaire général de la Croix-Rouge en RDC, Gloria Lombopolo, a rappelé aux femmes, sans exception des domaines et des rangs sociaux, de ne pas ignorer les compétences et les pouvoirs qu'elles détiennent déjà et surtout de passer à l'action. Selon elle, ces pouvoirs doivent s'exprimer dans la participation, l'inclusion et la solidarité entre femmes.
Le leadership féministe, c'est un pouvoir collaboratif, c'est un pouvoir partagé, c'est un pouvoir inclusif.
Jaël Mpianakankou, conseillère jeunesse et genre au sein du comité de direction, a à son tour encouragé les femmes et les jeunes filles à ne jamais se décourager.
C'est vendredi à Kinshasa, la présidente du caucus des jeunes du réseau des femmes leaders africaines d'Orca Boalelo a dénoncé au cours d'un point de presse des violences gynécologiques et obstétricales en RDC. Cette action fait suite à la diffusion d'images troublantes montrant la maltraitance d'une femme par un médecin lors d'un accouchement à l'hôpital général des références de Kinkolé. La présidente de cette structure précise que ces violences se manifestent par des actes médicaux réalisés sans consentement, des propos humiliants et dégradants, ainsi que des gestes brutaux et des situations de négligence. Dorcas Boalelo insiste sur l'urgence d'apporter une réponse globale et durable à cette problématique. Suivez un extrait de sa déclaration sélectionnée par Elache Mbalukomba.
Nous, femmes congolaises, dénonçons avec la plus grande fermeté cette violation grave de droits humains. Nous souhaitons alerter l'opinion publique, nationale et internationale, sur l'existence de violences gynécologiques et obstétricales en République démocratique du Congo. Ces violences, encore méconnues et sous-documentées, se manifestent notamment par des actes médicaux réalisés sans consentement, des propos humiliants et dégradants, des gestes brutaux non justifiés, des situations de négligence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur quatre à travers le monde subit de formes de maltraitance lors de l'accouchement. Il est donc impératif d'apporter une réponse globale, cohérente et durable à cette problématique. Cet effet, nous appelons à la reconnaissance explicite de violences gynécologiques et obstétricales dans le cadre juridique congolais. Protéger les femmes, c'est protéger la vie. Et protéger la vie est une responsabilité collective et institutionnelle.
Restons à Kinshasa. L'Association nationale des victimes au Congo a organisé ce vendredi 27 mars 2026 une journée de réflexion marquant la clôture du mois dédié à la femme. Au cœur des échanges, la situation de la femme congolaise avant, pendant et après les violences liées au conflit. Entre témoignages poignants, analyses d'experts et appels à l'action, cette rencontre a mis en lumière les défis persistants mais aussi les espoirs de résilience. Nancy Atambo et Magloire Landou, reportage.
Plusieurs victimes de la guerre étaient présentes dans la salle de réunion de la Commission nationale de droits de l'homme, où tout a commencé dans une ambiance à la fois solennelle et chargée d'émotions. Prenant la parole, Madame Yvette Elunga, coordinatrice de l'ONG Femina Asbel, a insisté sur les conséquences profondes de la victimisation.
Les conséquences d'une femme qui est victime de violences basées sur le genre, c'est que sa communauté en souffre. Sa communauté ne peut pas bénéficier de tout son potentiel parce que c'est une femme qui est brimée, qui a été traumatisée, qui est humiliée. La communauté doit dénoncer et c'est en dénonçant tous ces faits que les choses vont s'améliorer.
Philomène Galoula, l'une des femmes victimes de la guerre, raconte la souffrance qu'elle a subie.
Personnellement, je dis que la guerre n'est pas bonne. Puisque j'ai traversé toute les difficultés du monde, sauf la mort puisque je suis vivante, grâce à Dieu. La guerre m'a laissé vraiment dans l'embarras. J'ai perdu le mari, les enfants n'ont pas étudié.
Intervenant à son tour, Madame Davina Mouila de la justice transitionnelle a souligné la vulnérabilité de femmes en période des crises et l'importance de la justice dans la réparation du préjudice.
En période de conflit, les femmes sont représentées comme plus vulnérables parce que elles sont représentées comme armes de guerre. Elles sont utilisées par ce conflit.
Entre douleur et courage, ces femmes appellent à plus d'actions concrètes pour leur réinsertion et leur autonomisation.
Autre chose à présent, en Ituri, la MONUSCO renforce sa présence sur plusieurs axes à travers des opérations militaires, des escortes humanitaires et des actions civilo-militaires à Dodro, Bayo et Ndromo, des localités du territoire de Djougou à environ 70 km de Bounia. Les casques bleus multiplient les actions pour sécuriser les populations et appuyer les communautés locales. Les détails avec le colonel Charles Idjiwa, porte-parole militaire de la MONUSCO au micro de Martial Papimoukeba.
Le 5 mars à Drodro, nos unités ont déployé une base opérationnelle mobile dans les zones de Tchumbu et Saliboku-Ranganga. Des patrouilles de domination ont été menées pour dissuader les groupes armés et maintenir une présence sécuritaire visible. En parallèle, des échanges avec les leaders communautaires et des activités civilo-militaires ont permis de renforcer la confiance avec les populations locales. Le 24 mars à Bayo, la MONUSCO a assuré l'escorte de 7 civils vulnérables, dont des femmes et enfants menacés par des groupes armés. Ils ont été sécurisés et transférés sans incident vers Fataki, dans une zone plus protégée. Enfin, à Ndromo, une formation en entrepreneuriat a été organisée au profit de 22 participants. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales, promouvoir des activités génératrices de revenus et soutenir la résilience des communautés. Ces actions traduisent l'engagement constant de la MONUSCO en faveur de la protection des civils et de la stabilisation de l'Ituri.
À Beni, dans la province du Nord Kivu, l'accès à l'eau potable reste un défi quotidien pour les habitants de plusieurs quartiers périphériques. Dans ces zones, l'eau de la régie des eaux est quasi absente, ce qui oblige la population à parcourir de longues distances pour s'approvisionner souvent dans des conditions insalubres et avec tous les risques liés à l'insécurité. Keren Mukunati a visité certains de ces quartiers. Voici son reportage.
Parmi les quartiers les plus touchés, on compte Mounzambayi, Ngadi et Kangayimpi. Ici, trouver de l'eau potable relève du parcours du combattant. Chaque jour, les habitants, composés majoritairement de femmes et de jeunes filles, parcourent de longues distances pour puiser de l'eau dans des sources éloignées. Un habitant du quartier Mounzambayi témoigne.
Nous puisons de l'eau dans des sources très éloignées. Pendant la saison sèche, la pénurie s'aggrave encore. Il faut parfois attendre des heures pour remplir quelques bidons. Et nous cherchons de l'eau jusqu'à 20 heures.
La qualité de l'eau constitue également un problème majeur. Une résidente explique.
L'eau que nous utilisons n'est pas propre. Il y a beaucoup de microbes. Il faudrait qu'on nous fournisse des produits pour la traiter et qu'on installe de bornes fontaines publiques dans le quartier.
N'avons pas obtenu des réactions des responsables de la régie des eaux à Beni. Beni, Keren Mukunati, Radio Okapi.
Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, exprime sa satisfaction de l'avancement des travaux de modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit, province du Kwilu, après sa descente sur ses sites, accompagné du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT. Avec ces travaux, la capacité d'accueil de l'hôpital général de référence de Kikwit 1 va passer de 150 à 650 lits. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Sur les 11 bâtiments existants, l'hôpital général des références de Kikwit aura 17 autres nouveaux bâtiments, dont 13 sont déjà en cours d'exécution. Cette capacité permettra l'ajout de 25 autres services, affirment les mêmes sources. Le projet, exécuté grâce au financement du programme sino-congolais, dotera cet établissement hospitalier d'une fourniture autonome en eau et en électricité. Sa morgue, d'une capacité de 9 corps, passera à 90 corps, avec en plus 4 incinérateurs. Les différents bâtiments seront reliés entre eux par une voirie locale interne revêtue et l'ensemble du projet sera ceinturé par un bon mur de clôture. La firme Sinohydro s'emploie à boucler ses travaux d'ici juin 2027, soit 24 mois après leur début. Par ailleurs, l'Agence congolaise des grands travaux avait mené des études pour la réhabilitation par la firme Safrimex de l'aérodrome de la ville de Bandundu en vue de l'accueil des aéronefs amenant les délégations à la conférence des gouverneurs.
Revenons encore une fois au Nord Kivu avant d'aller plus loin. Dans la ville de Beni, s'est ouverte ce jeudi la 3e édition du Congrès national des travailleurs domestiques en République démocratique du Congo. Une centaine de représentants de ces employés des maisons et de leurs associations venues de plusieurs provinces du pays participent à ces assises. Pendant 2 jours, les participants se sont penchés sur les défis persistants qui caractérisent encore le travail domestique en RDC, une profession encore marginalisée et non reconnue par les lois du pays. C'est ce qu'explique ici Modeste Siayo Sola, travailleur domestique au micro des marques Marofimbo.
C'est une vie maigre, une vie marginalisée, oubliée, une vie pénible. Alors nous sommes dans la bataille pour amener les autorités, toutes les couches sociales à comprendre qu'il y a aussi une couche de la population très importante qui doit être sécurisée. Les difficultés les plus phares aux travailleurs domestiques, c'est d'abord la méconnaissance juridique, aussi les mauvais traitements sur le plan salarial, sur le respect dans les horaires et heures de travail, mais aussi la plus grande difficulté, c'est que ces gens ne sont pas reconnus nulle part par la loi. Nous attendons des autorités la ratification des conventions 189 et 190 de l'Organisation internationale du travail pour garantir la sécurité sociale aux travailleurs domestiques. Par exemple, dans les SMIG, il y a quand même une loi qui rémunère leur prise à charge salariale, comme la loi propose 21 500 francs par jour à tous les prestataires de services, et que les travailleurs domestiques arrivent aussi à bénéficier de cet argent. Ça peut amener à améliorer les conditions de vie des travailleurs domestiques.
Ce congrès de 2 jours s'est clôturé ce vendredi. Un mémorandum contenant les principales revendications pour l'amélioration de conditions de vie des travailleurs domestiques a été remis aux autorités.
Actualité internationale.
Le Liban est au bord de la catastrophe humanitaire, plongé malgré lui dans le conflit au Moyen-Orient. Le pays du Cèdre est exangu car quotidiennement bombardé par l'armée israélienne. Plus d'un million de personnes, soit un quart de la population, ont été déplacées par les combats. L'ONU demande l'arrêt immédiat des bombardements avec en toile de fond la peur de voir un nouveau Gaza se reproduire.
L'invité.
Notre invité est Moussa Ali Routamou, secrétaire exécutif de l'Esbel Machozi ya Raia, qui signifie « pleurs des civils » en swahili. Il revient sur les retombées socio-économiques de la mesure interdisant le trafic sur les tronçons Uvira-Runingu, mesure prise depuis bientôt 3 semaines par les autorités militaires en vue de contrer les infiltrations de l'FCM-23 dans la ville d'Uvira. Ali Moussa Routamou s'entretient avec Jean Kassami.
Vous êtes animateur au sein de l'Esbel, l'organisation non gouvernementale Machozi ya Raia. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Nous sommes à 3 semaines depuis que les autorités militaires sur l'axe Runingu-Uvira ont interdit tout trafic sur ces tronçons. Quelles sont les retombées économiques de cette décision déjà observée par votre ASBEL Machozi ya Raia?
Cette fermeture a des conséquences socio-économiques très lourdes. D'abord, il y a d'énormes pertes pour les commerçants qui aujourd'hui sont obligés de faire rentrer leurs marchandises qui étaient au niveau des Sangues, retourner dans la ville de Bukavu, prendre un autre camion pour le Rwanda au niveau de la Tanzanie, Tanzanie au Burundi, Burundi vers Uvira. Ça, c'est un coût tellement imprévu pour ces commerçants. De plus, pour ces trajets, il y a des produits périssables qui se détériorent avec les temps. Cela entraîne non seulement des pertes financières directes, mais aussi une rupture d'approvisionnement sur les marchés de Bukavu et d'Uvira. De même, cette situation provoque une hausse des prix parce qu'aujourd'hui, non seulement que la ville d'Uvira s'approvisionne en alimentation de la capitale burundaise Bujumbura, mais aussi de la ville de Bukavu, nous avons des produits comme le Thompson, il y a plusieurs aliments. Ce qui affecte directement les pouvoirs d'achat de la population déjà vulnérable par des insécurités. Par ailleurs, plusieurs activités économiques sont paralysées. Nous voyons les transporteuses, nous avons les chargeurs des petits vendeurs et même les journaliers qui vivent de cette rançon.
Cette mesure parvient-elle à garantir la sécurité dans la région, principalement empêcher les infiltrations des M23 dans la ville d'Uvira?
Nous comprenons justement la nécessité pour les autorités de vouloir protéger la ville contre d'éventuelles infiltrations rebelles. Nous avons déjà vécu une situation similaire en 2025 où la fermeture a duré plus de 9 mois avec les mêmes arguments sécuritaires. Mais contre toute attente, cela n'a pas empêché que la ville d'Uvira soit prise par les rebelles de l'AFCM23. Cela pose donc la question même de l'efficacité réelle de ce type de décision. Aujourd'hui encore, on impose une fermeture totale qui pénalise fortement les civils sans garantir que cela apporte des résultats concrets sur le plan sécuritaire. Cette approche semble davantage fragiliser la population que renforcer même réellement la sécurité. Par ailleurs, lorsque les autorités parlent d'infiltration comme stratégie utilisée par les rebelles, une question légitime se pose. Pourquoi cette stratégie semble-t-elle être perçue comme l'apanage exclusif de groupes armés? Pourquoi les forces régulières ne pourraient-elles pas aussi faire usage de stratégies intelligentes et offensives pour infiltrer et reprendre les zones occupées par ces rebelles? La question ne doit pas être uniquement défensive. Au détriment des populations civiles, nous l'avons toujours revendiqué, et doit aussi être stratégique, proactive et orientée vers la libération totale des territoires occupés, tout en minimisant bien sûr les souffrances des citoyens. Au lieu d'une fermeture prolongée et généralisée, il serait plus judicieux de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux, des renseignements efficaces et des stratégies adaptées qui assurent à la fois la sécurité et la continuité même de la vie socio-économique de population civile.
Les autorités appellent incessamment la population civile à la vigilance. Cette dernière, de votre avis, joue-t-elle réellement le rôle lui confié par les dirigeants?
Nous sommes de ceux qui pensent que la sécurité est une responsabilité partagée, mais elle doit être structurée, accompagnée par l'État pour être de plus en plus efficace. Quant aux civils, ils ont un rôle tellement plus important à jouer, notamment la vigilance communautaire pour contribuer à la sécurité, notamment à travers la remontée d'informations fiables aux autorités sur des mouvements suspects. Toutefois, cela doit se faire dans un cadre organisé et encadré, même sécurisé, en fait d'éviter les abus des dénonciations calomnieuses ou la justice populaire qu'on est en train de les voir aujourd'hui dans la ville d'Uvira.
C'était notre invité Ali Moussa Routamou qui s'entretenait avec Jean Kassami. Et voilà qui met fin à ce journal du matin préparé pour vous par Jules Mystère Bilandan Koumar et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.